Soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la décrue du Covid version Omicron a commencé. Le pic des infections est en train d'être passé. Ce sont les bonnes nouvelles du professeur Fontanet du Conseil scientifique ce matin sur France Inter. Le pic de la vague hospitalière est attendu dans les jours à venir. Dans les écoles, collèges et lycées, un nouvel appel à la grève est lancé pour jeudi prochain. Le pass vaccinal adopté hier soir à l'Assemblée. Par ailleurs, pour participer à une compétition en France, il faudra être vacciné. Les armes anti-Covid, c'est aussi le traitement de Pfizer. L'Américain investit plus de 500 millions en France pour sa fabrication. Dans l'actualité encore, la réforme de l'adoption en examen à l'Assemblée. Progrès ou pas pour les familles et les enfants? Nous en parlons avec la présidente de la principale association de parents. La campagne électorale à 13h30. Notre invitée est la porte-parole de l'écologiste Yannick Jadot, Marine Tondelier. Toutes vos questions 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. De nouvelles fouilles dans l'affaire Jubilard. Plus d'un an après la disparition de la jeune femme, l'étranger, le FMI peut-il quelque chose pour le Liban, 2 ans de crise économique. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton, une semaine avec les compagnons du devoir. La maison de Pantin, près de Paris, travaille en entreprise en journée, à l'atelier le soir et le samedi. Écoutez le prévôt qui dirige les apprentis.
C'est une formation qui est intense. Ils ont une soirée de libre par semaine. Mais ça reste un rythme costaud.
Rendez-vous à 13h50. Le vif de l'histoire, au fil des années, les historiens mettent en valeur davantage de femmes. Aujourd'hui, Flora Tristan dans le vif avec Jean Lebrun. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons du John Lennon. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La baisse est légère, mais elle est réelle. Moins de malades du Covid au fil des jours. 278 000 contaminations annoncées hier, contre près de 300 000 le dimanche d'avant. Le nombre de malades à l'hôpital continue d'augmenter, mais il baisse en soins critiques. On est à moins de 3 900. On était au-dessus jeudi. D'où la question posée ce matin par Nicolas Demorand et Léa Salamé au professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique. Le pire de cette cinquième vague est-il derrière nous?
Alors oui, le scénario du pire s'éloigne. La décrue a commencé. Le pic des infections, en tout cas, a été passé ces jours-ci. Hein, on est vraiment, peut-être la semaine dernière, dans la région Île-de-France. Ce sera un petit peu plus tard pour les autres régions françaises. Les admissions à l'hôpital pourraient encore continuer d'augmenter pendant quelques jours. Il y a toujours un décalage entre les infections et les admissions à l'hôpital. Mais là aussi, on devrait atteindre le pic, disons, dans la semaine qui vient. En revanche, les patients vont rester à l'hôpital. On peut s'attendre à ce que les hôpitaux restent encore très sollicités tout le courant du mois de février. Mais pour l'instant, on a le sentiment effectivement que le pic est en train de passer devant nos yeux.
À quelle date vous voyez la fin de la vague ?
Le nombre d'infections va décroître considérablement pendant le mois de février. Et effectivement, au mois de mars, on devrait être à des niveaux très bas.
Et cette vague, pour l'instant, reste très forte, on en reparle. Mais restons un instant sur la tonalité optimiste. Ce qu'il entretient, c'est que de nouvelles armes anti-Covid arrivent. Le cinquième vaccin a été autorisé vendredi par la Haute Autorité de Santé en France, Novavax, technologie classique, pas ARN messager. Et puis le comprimé de Pfizer, c'est un traitement qui bloque la circulation du virus et réduit très fortement le risque d'hospitalisation. L'Agence européenne du médicament a déjà approuvé son utilisation en cas d'urgence. Elle examine la demande d'autorisation classique. Un avis est attendu d'ici à quelques semaines. Ce traitement s'appelle Paxlovid. Le gouvernement américain a déjà commandé des millions de doses. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour.
Et Pfizer doit confier une partie de la production à un labo français à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ce laboratoire français, c'est Novacep, 1200 employés répartis dans différents sites français. Mais c'est bien celui de Mourinx qui fabriquera le Paxlovid dont vous parliez, Bruno. Un traitement antiviral qui réduirait de près de 90% les hospitalisations et les décès chez les personnes à risque. Alors Novacep ne produira pas tout. En fait, le laboratoire va fabriquer le principe actif de la pilule de Pfizer, c'est-à-dire la substance présente dans le médicament et qui lui confère ses propriétés thérapeutiques ou préventives. Mais les boîtes de médicaments ne sortiront pas directement du site de Mourinx. La suite de la chaîne de production se fera ailleurs en Europe. En tout, 150 salariés du laboratoire français seront impliqués dans cette production. Novacep prévoit d'ailleurs d'embaucher 40 personnes. Quant au démarrage, il est prévu pour le premier trimestre de cette année. Sur les 520 millions d'euros que Pfizer prévoit d'investir en France sur les 5 prochaines années, une grande partie sera donc allouée à Novacep. Les deux laboratoires n'en sont d'ailleurs pas à leur première collaboration. Pfizer prévoit de produire 120 millions de doses du médicament Paxlovid d'ici d'ici la fin de l'année. Combien par Novacep ? Les objectifs de production du laboratoire français ne sont pas encore connus.
La France est-elle en train de devenir plus attractive pour les investissements étrangers ? La réponse est plutôt oui. On détaille ça dans quelques minutes. D'abord, bouclons la page Covid. Dans les écoles, collèges et lycées, plusieurs syndicats et mouvements appellent à une nouvelle journée de mobilisation et même de grève ce jeudi. Les syndicats, la FSU, notamment les parents d'élèves de la FCPE, et plusieurs mouvements lycéens également. Si l'optimisme est davantage de mise que ces derniers jours, le nombre de contaminations reste à un niveau très élevé, 278 000 en moyenne sur les 7 derniers jours. Certes, Omicron, variant désormais très largement dominant, est moins dangereux, mais la nécessité de se faire tester demeure très forte. Si en croire le site Covid Tracker, il n'y a plus que 2 départements au-dessus des 4000 de taux d'incidence. On reste là aussi à des niveaux très élevés. Exemple, dans les Landes, incidence 2500. Faut-il rappeler que le premier seuil d'alerte est à 50. Dans ce département qui ne compte pas de métropole, l'Agence régionale de santé ouvre 5 nouveaux lieux de dépistage. Didier Couteau est le directeur départemental de l'ARS dans les Landes, l'offre des labos et pharmacies ne suffit plus.
Les laboratoires font près de 17 000 tests à la semaine. Et puis, on a bien sûr quasiment toutes les pharmacies qui participent et qui font également 20 000 tests antigéniques. Et pour autant, malgré cette offre qui est considérable, on a donc des files d'attente. On a aussi des difficultés parfois pour se faire tester. Donc l'idée, c'est de pouvoir déjà, avec ces 4 ou 5 opérations, en avoir 1000 de plus par semaine, puisque on voit bien que encore 15 jours, pour le moins, on a ce besoin de tests complémentaires au vu donc de la poussée de Omicron dans le département.
Didier Couteau, directeur départemental de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans les Landes, propos recueillis par nos confrères de France Bleu Gascogne. Et le détail de ces 5 nouveaux lieux de dépistage, vous le trouvez sur le site santé.fr. Et Omicron, le très contagieux, continue de semer la pagaille dans la vie sociale, les écoles, on en parlait, les entreprises, les palais de justice. Le procès du 13 novembre est suspendu à nouveau pour une semaine au moins, un accusé est positif. Dans le sport de haut niveau, le feuilleton Djokovic est donc clos. Le numéro 1 mondial du tennis expulsé d'Australie est passé par Dubaï cette nuit. Et à propos des compétitions en France, dans les semaines à venir, le gouvernement durcit la règle pour participer à une compétition. Eh bien, il faudra être vacciné, Alexandre Vaux.
Dès que la loi sera promulguée, le pass vaccinal deviendra obligatoire pour entrer dans tous les ERP, les établissements recevant du public, dont les stades et les salles, et ce sera valable pour l'ensemble des spectateurs et des pratiquants, professionnels compris. Roxana Maracineanu, ministre déléguée au sport.
Nous avons choisi la simplicité, dire effectivement que dans tous les ERP que l'on vienne pour pratiquer son métier, on a besoin, dès que la loi sera promulguée, d'être vacciné. Et donc ce sera valable aussi bien pour les sportifs français que pour les sportifs étrangers qui viendront en France, évidemment pour s'entraîner, mais aussi pour les compétitions sportives.
Tous les athlètes de plus de 16 ans devront donc présenter un carnet de vaccination complet pour pouvoir s'aligner dans une compétition en France. Une déclaration qui intervient quelques heures seulement après l'affaire Novak Djokovic. Cela signifie que le numéro 1 mondial de tennis, qui vient d'être expulsé d'Australie, pourrait être privé de Roland-Garros au printemps. Mais le ministère précise que dans certains cas, un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination au Covid pourra suffire pour pouvoir s'entraîner et participer à des compétitions. La date de l'entrée en vigueur du pass vaccinal, en attendant, n'a pas encore été annoncée.
Alors si on a énormément parlé de Djokovic ces derniers jours, parmi les 100 premiers au classement mondial du tennis, il est quasiment le seul non vacciné. Sur les règles en France pour les semaines à venir et le comportement des sportifs, Fabrice Abgral a interrogé le joueur français Lucas Pouille.
Ça dépasse un peu le sportif. On vit une pandémie mondiale. C'est la responsabilité de chacun de se vacciner et chacun a le droit d'avoir un avis différent. Après, voilà, il faut juste l'assumer. Quand on décide de ne pas se faire vacciner, ben on n'a pas le droit de se plaindre si on n'a plus le droit de faire certaines choses. Le but de se faire vacciner, c'est de ne pas boucher les hôpitaux. Donc, on est au-dessus de personne, que ce soit Djokovic, que ce soit Nadal, Federer, tous les plus grands sportifs, les plus grandes personnalités de ce monde. Personne n'est au-dessus et chacun doit assumer ses choix.
Lucas Pouille avec Fabrice Abgral. Il a été battu cette nuit, Pouille, au premier tour de l'Open d'Australie de tennis par un autre Français, Corentin Moutet. À retenir également de la nuit à Melbourne les résultats, la qualification de Naomi Osaka, de Raphaël Nadal et de Gaël Monfils. Encore quelques mots du Covid et ce pass vaccinal dont Alexandre Vaux nous disait qu'il n'était pas encore appliqué. Le Conseil constitutionnel a été saisi par l'opposition. Réponse attendue dans la semaine. Ce projet de loi prévoit prévoit notamment le contrôle d'identité éventuellement par les restaurateurs. Ça ne sera pas appliqué, dit d'ores et déjà l'organisme UMI Restauration. Petit 1, parce que ce n'est pas obligatoire. Et petit 2, parce que nous ne sommes pas formés à juger de la validité de ce pass. Et puis la pandémie, elle continue de faire des ravages sur l'emploi. Si le taux de chômage est plus que correct en France, dans le reste du monde, c'est plus compliqué selon l'Organisation Internationale du Travail. Nombre de chômeurs en 2022, estimé par l'OIT à 207 millions, contre moins de 286 millions en 2010. Nous parlions il y a quelques instants de l'investissement annoncé de Pfizer en France, plus de 500 millions d'euros. C'est un des projets mis en avant aujourd'hui par l'Élysée. Chaque année, depuis le début du quinquennat, il y a la journée Choose France. Emmanuel Macron reçoit des chefs d'entreprise étrangers prêts à investir dans l'Hexagone. Dans le contexte sanitaire, pas de grande réception cette année au château de Versailles, mais tout de même l'annonce de 21 projets supplémentaires, censés créer plus de 10 000 emplois et 16 000 en intérim. La France est-elle réellement devenue plus attractive depuis 2017? Oui, c'est un élément à mettre en positif au bilan d'Emmanuel Macron, répond le professeur d'économie François Levesque, qui enseigne à l'École des Mines.
La France a gagné en attractivité sur deux tableaux ou à travers deux mécanismes. Le premier, c'est que bien évidemment, les investisseurs, avant de choisir le pays où ils vont mettre de l'argent, ils regardent des paramètres objectifs sur le niveau des taxes, sur le niveau des infrastructures, sur le coût du travail. Et là, depuis la présidence d'Emmanuel Macron, il y a eu des diminutions d'impôts sur la production, la baisse des impôts sur les bénéfices des entreprises, et puis sur le second tableau où l'image de la France, l'image économique, eh bien, elle s'est redressée par rapport à des a priori que beaucoup d'investisseurs étrangers pouvaient avoir en tête, notamment sur la facilité des Français à faire grève ou le fait que les Français ne travaillent que 35 heures par semaine. Voilà. Eh bien, la communication où lorsqu'un président reçoit à Versailles des dirigeants de grandes entreprises étrangères, eh bien, ça a aussi un effet parce que les investisseurs étrangers sont aussi sensibles à ces paramètres subjectifs.
Un propos recueilli par Thomas Giraudeau. Parmi les entreprises qui annoncent aujourd'hui investir en France cette année, outre Pfizer, il y a l'allemand BASF, le britannique GlaxoSmithKline. Et arrêtons-nous sur un autre américain, Eastman, autrefois branche de Kodak. Les photos, 850 millions d'euros d'investissement, c'est le plus gros projet, 350 emplois directs. Le site n'est pas encore annoncé, ce sera une usine de recyclage du plastique. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Au-delà des emplois créés, cette nouvelle usine propose une forme de recyclage du plastique d'un nouveau genre.
Oui, c'est du recyclage chimique, un nouveau procédé pour donner une nouvelle vie aux déchets en plastique PET, la famille des polyesters qui sert aussi bien à fabriquer une bouteille de lait que des pulls en polaire. Le recyclage chimique consiste à casser le polymère, qui est une longue chaîne de molécules, pour revenir aux ingrédients de base, comme si l'on jouait au Lego, on défait les briques et on les réutilise à l'infini pour faire un nouvel assemblage. Contrairement au recyclage mécanique, qui va broyer et fondre le déchet plastique pour refaire de nouvelles pièces, un procédé qui finit par appauvrir le plastique. Aujourd'hui en France, la filière est essentiellement organisée autour du recyclage mécanique. Le groupe américain Eastman promet que son usine sera complémentaire, pas concurrente. Cédric Perben, l'un de ses responsables techniques.
Cette technologie de recyclage moléculaire permet de recycler les polyesters et les PET. Alors ça peut être les emballages pour les jambons, ça peut être aussi la bouteille de lait opaque en PET, tout ce qui est des films d'étiquettes qui sont sur les emballages. On peut aussi prendre tout ce qui est textile, ils sont les polaires. Nous ne sommes pas en compétition du tout avec le recyclage mécanique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des produits qu'aujourd'hui le recyclage mécanique ne peut pas traiter, soit parce qu'ils sont souillés ou parce qu'ils sont colorés ou qu'ils sont multicouches.
Le recyclage chimique est en plein essor. L'entreprise française Carbios vient d'ouvrir un démonstrateur près de Clermont-Ferrand. Elle utilise des enzymes pour recycler le plastique. En novembre dernier, l'Agence européenne des produits chimiques a demandé des études supplémentaires pour évaluer les nouvelles techniques du recyclage chimique, notamment le devenir des produits utilisés dans ces futures usines.
Voilà pour cette journée Choose France. Choisissez la France, mais payez-y vos impôts pour les contribuables étourdis. Sachez que le fisc fait appel à l'intelligence artificielle, un algorithme déployé par l'entreprise Capgemini et Google, croise les données de cartographie officielle avec les déclarations des contribuables et on a détecté comme cela 12 000 piscines non déclarées, rien que dans les deux départements des Bouches-du-Rhône et du Var. C'est le premier bilan du dispositif foncier innovant expérimenté depuis septembre par le fisc. On teste, comme 7 autres départements, un programme pour traquer le bâti non déclaré, avec un succès certain, Sophie Gletin.
C'est un logiciel informatique, un algorithme déployé avec le soutien de Google et de Capgemini qui permet aux services fiscaux de repérer les piscines non déclarées et donc non taxées. Pascal Rotet est le directeur départemental des finances publiques du Var.
L'intelligence artificielle permet, en croisant ces algorithmes avec les photos aériennes de l'Institut Géographique National, d'identifier toutes les modifications qui n'auraient pas encore été déclarées par les propriétaires des biens.
Si une piscine non déclarée est détectée, un agent des impôts contrôle systématiquement le dossier. Il vérifie que l'intelligence artificielle a vu juste, et s'il y a doute, il peut même se déplacer chez le propriétaire. Ondine Aquaviva, des finances publiques du Var.
En effet, parce qu'une photo aérienne, vous avez une piscine, c'est vrai qu'on peut avoir une bâche bleue qui peut y ressembler, donc il est important de corroborer par la présence humaine ces détections.
Si la fraude est avérée, le contribuable reçoit un courrier. Les premières lettres vont partir dans les semaines qui viennent.
Chaque propriétaire se verra adresser une demande de rectification, et dans l'hypothèse où tel refuserait de s'y plier, il serait en plus assujetti au paiement d'une amende. Et de toute manière, vous aurez à payer l'augmentation correspondant à la refiscalisation de votre bien.
Le montant de l'amende peut aller jusqu'à 150 euros.
Plus d'un an après sa disparition, va-t-on enfin retrouver le corps de Delphine Jubilard dans le Tarn ? De nouvelles fouilles ont été lancées ce matin dans une ferme de Cagnac-les-Mines. Pourquoi ce lieu de recherche, David Di Giacomo ?
Si les recherches se focalisent à proximité de cette ferme, c'est en raison des déclarations d'un ex-voisin de cellule de Cédric Jubilard. Il y a quelques semaines, il raconte aux enquêteurs que le mari de Delphine lui a confié avoir enterré sa femme près d'un arbre, pas loin de cette ferme qui a brûlé en avril dernier. Il lui aurait même demandé de déplacer le cadavre, toujours selon ce même détenu. Les gendarmes ont donc mis en place un périmètre de fouille situé à quelques centaines de mètres seulement de la maison du couple Jubilard. De très gros moyens sont mobilisés dans une zone accidentée et boisée. Les gendarmes bénéficient des moyens de l'armée, avec l'unité de fouilles opérationnelles spécialisées du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban. Ce sont des militaires d'élite spécialisés dans la recherche de corps enterrés dans les affaires criminelles. Ces fouilles, nous précise la gendarmerie, peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Et Cédric Jubilard, le mari de Delphine, est en détention provisoire depuis juin dernier. Il clame régulièrement son innocence.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
La proposition de loi de réforme de l'adoption revient à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour une adoption définitive. En principe, l'objectif affiché est de moderniser le droit de l'adoption. Cet objectif est-il atteint ? On en parle avec la présidente de la principale association de parents adoptifs, enfance et famille d'adoption. Bonjour Anne Royal. Est-ce que vous êtes avec nous, Anne Royal, présidente de l'association Enfance et Famille d'Adoption ? Petit décalage. Les associations semblent assez critiques à propos de cette proposition de loi. Est-ce qu'il y a un aspect de cette réforme qui vous satisfasse d'abord ?
Oui. Il y a quelques aspects qui nous conviennent, hein, notamment la préparation obligatoire des candidats à l'adoption d'un enfant au moment de leur agrément, ainsi que la formation obligatoire pour tout nouveau membre des conseils de famille des pupilles de l'État.
Alors, pour faciliter l'adoption d'enfants nés en France, le consentement explicite des parents de naissance qui ont confié leur enfant à l'aide sociale à l'enfance n'est plus obligatoire. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Et que pensez-vous de cette réforme ?
Alors déjà, ce consentement ne concerne que les parents qui remettent leur enfant à l'aide sociale à l'enfance pour qu'il soit admis en qualité de pupille de l'État et qui sont identifiés, c'est-à-dire ça ne concerne pas les enfants qui sont nés sous le secret.
Oui, hein. C'est ceux qui ont laissé leur identité et qui sont pour des enfants nés en France. Hein.
C'est ça, voilà. C'est ça, les enfants pupilles de l'État nés en France. Voilà, ses parents ne seraient plus invités à consentir à son adoption. Or, c'est le seul acte qui sont en capacité de poser pour assurer l'avenir de leur enfant. C'est important ensuite pour la personne adoptée lorsqu'elle va se questionner sur son histoire, hein, de savoir que voilà, c'est le projet qu'ont fait ses parents biologiques pour lui assurer son avenir. C'est aussi une façon de s'assurer que les parents ont bien compris la portée de leur acte.
Oui.
Voilà, c'est vraiment dommage de se passer de ce consentement aujourd'hui.
Et quel est le sens du fait de se passer de ce consentement ? C'est pour faciliter les adoptions, pour accélérer les procédures ?
Non, ça ne va rien accélérer, puisque de toute façon, l'enfant, lorsqu'on demande son admission en qualité de pupille de l'État, on a possibilité d'en demander la restitution. si on est prêt à en assumer la charge. Voilà, on a un délai hein, de demande de restitution. Bon, voilà, ça ne changera rien. Il n'y aura pas plus d'enfants pupilles.
Et est-ce qu'ils auront, ils continueront, s'ils le souhaitent, de pouvoir entrer en contact avec leurs parents biologiques à un moment ou un autre?
Ah oui, mais là c'est complètement différent en fait. Hein. Donc c'est après ils pourront, si les parents sont identifiés, essayer de voilà d'avoir accès à leurs origines.
Oui.
Mais de même que s'ils sont nés sous le secret, ils peuvent toujours demander la. À connaître l'identité de leurs parents.
Bien sûr, c'était juste pour préciser les choses.
D'accord.
Autre objectif de cette réforme, éviter les discriminations entre familles. Le Conseil des familles, qui est chargé d'aider les parents qui veulent adopter, sa composition est modifiée. Un spécialiste des discriminations vient à la place d'un spécialiste de la protection de l'enfance. Là encore, j'ai bien résumé. Et quel est le sens de ce changement? Alors, allez-y.
En fait, le conseil de famille, il n'est pas chargé de trouver des enfants pour les candidats à l'adoption. Le conseil de famille des pupilles de l'État, il assure la responsabilité partagée avec le tuteur hein, qui représente l'État, c'est le préfet hein, qui représente l'État dans le département, autour de l'enfant pupille de l'État. Donc, il est vraiment là pour assurer la responsabilité de l'enfant, répondre à ses besoins, voilà, faire un projet de vie pour lui qui n'est pas toujours une adoption d'ailleurs.
Alors le point, c'est que dans ce conseil de famille, un spécialiste de la lutte contre les discriminations va remplacer un spécialiste de la protection de l'enfant, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Actuellement, le conseil de famille des pupilles de l'État est composé de 8 membres, dont 2 personnes qualifiées en matière de protection de l'enfance. Hein. Ça peut être un médecin, un juriste, un enseignant, un psychologue, un éducateur, voilà. Et ces personnes qualifiées, elles vont aider à la définition du projet de vie de l'enfant. Mmh. C'est important parce qu'on sait que voilà, beaucoup d'enfants arrivent dans le statut de pupille après plusieurs années de placement à l'aide sociale à l'enfance, avec des histoires très lourdes, hein, des enfants cabossés par la vie. Il y a actuellement 3248 enfants qui bénéficiaient du statut de pupille de l'État, et il n'y en a que 884 qui étaient confiés en vue d'adoption. Donc il reste beaucoup d'enfants pupilles pour lesquels l'adoption n'est pas le projet. Donc supprimer cette personne qualifiée qui est bien utile hein, pour l'enfant au profit d'une personne qualifiée en matière d'éthique ou de lutte contre les discriminations, voilà, c'est apporter alors peut-être dans l'idée hein, c'est bon d'éviter de discriminer les candidats à l'adoption, ça peut être louable, mais il faut pas perdre de vue l'objectif du conseil de famille qui est avant tout là pour l'enfant.
Merci Anne Royal, vous qui présidez l'association Enfance et Famille d'Adoption, d'avoir pris quelques minutes pour nous aider à y voir un peu plus clair sur cette proposition de loi qui est présentée aujourd'hui à l'Assemblée. À l'étranger, même en prison, il continue de se faire entendre. Il y a un an, Alexeï Navalny était arrêté à Moscou. C'est un opposant très remuant, remis d'un empoisonnement que le régime de Vladimir Poutine plaçait derrière les barreaux l'année dernière. Et remuant, Navalny l'est toujours sur les réseaux sociaux. Il fait savoir aujourd'hui, depuis sa prison, qu'il ne regrette rien. Il appelle les Russes à ne pas avoir peur. Navalny est toujours aussi fort pour communiquer, Sylvain Tronchet.
Même si Alexeï Navalny n'existe pas à la télévision en Russie, et donc pour une grande partie des Russes, il a réussi à créer ses canaux de communication. En premier lieu, son compte Instagram, alimenté via des messages qu'il passe à son avocat. Alexeï Navalny raconte sa vie en prison, commente l'actualité et se moque du pouvoir. Il a aussi fait quelques apparitions lors des procès qu'il intente à l'administration pour protester contre ses conditions de détention. Et en décembre dernier, on a ainsi pu le voir dans une courte vidéo où il interpelle un photographe dans une salle d'audience. Traduction, veux-tu que je mette mon chapeau pour faire une bonne photo? Ah, toi tu n'aimes pas les mises en scène. Comme dans ses messages sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny aime manier l'humour. Comme dans le documentaire Dvorets Poutina, le palais de Poutine qu'il a réalisé juste avant d'être incarcéré, cette vidéo longue de 2 heures qui affirme que Vladimir Poutine s'est fait construire un palais à plusieurs centaines de millions d'euros au bord de la mer Noire. Cette vidéo est devenue la plus regardée sur YouTube en Russie l'an dernier avec 120 millions de vues. Et on a appris la semaine dernière que CNN et HBO allaient sortir un documentaire consacré à Navalny, l'opposant numéro 1 Navalny n'a pas fini de faire parler de lui. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Navalny incarcéré à une centaine de kilomètres de Moscou. Le FMI peut-il faire quelque chose pour le Liban? Une délégation est attendue aujourd'hui dans le pays qui traverse une crise économique infernale, faillite à tous les étages. Manifestation de la crise, notamment l'immobilier. Détail avec ce reportage du correspondant de France Inter à Beyrouth, Aurélien Colli.
À vendre dans un immeuble récent de Beyrouth, un 3 pièces, 150 mètres carrés avec balcon, 1400 euros le mètre carré. C'est deux fois moins cher qu'il y a deux ans.
Salle de séjour avec une cuisine ouverte, avec un îlot central.
Guillaume Boudisseau est agent immobilier au Liban depuis 15 ans.
C'est un bon produit. Maintenant, il faut trouver le client.
Car les acheteurs sont devenus rares. Rares dans le pays où les trois quarts de la population ont basculé dans la pauvreté. Rares à l'étranger aussi, où la crise fait fuir les investisseurs, même dans la diaspora libanaise.
Il y a une certaine crainte par rapport à la situation du pays, sécuritaire, politique, économique. L'électricité, ça devient un calvaire. Aujourd'hui, c'est un défi, même un challenge de trouver des acheteurs, ça c'est indéniable.
Difficile de vendre et encore plus de louer. À un kilomètre, le centre-ville de Beyrouth, reconstruit après la guerre civile. C'était la vitrine d'un Liban qui se voulait prospère, avec ses bureaux, ses restos et ses magasins de luxe.
Il y avait une boutique qui était ici, elle a fermé. Celle-ci encore a fermé. Le coin, là, il y avait une très belle exposition, pareil, elle a fermé. C'était le must, avoir une boutique disponible dans ce quartier-là, j'étais super content. Aujourd'hui, j'ai peut-être une centaine de boutiques à louer, mais j'ai personne, malheureusement.
Pour sortir le Liban du marasme, l'aide internationale existe, mais elle est conditionnée à un minimum de réformes, de transparence et de lutte contre la corruption que les partis confessionnels au pouvoir empêchent jusqu'à présent. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
En France, à la SPA, l'année commence avec des refuges proches de la saturation. Plus de 7000 animaux attendent un nouveau maître en ce début d'année. Une idée de série avant la météo. Si vous êtes abonné à OCS, vous pouvez voir à partir d'aujourd'hui Somebody Somewhere, quelqu'un quelque part. Réflexion drôle et sensible, nous dit Alexandra Akoun sur la difficulté d'être soi. Alexandra a beaucoup aimé.
What are you doing with your life?
Ce qu'elle fait de sa vie, Sam se le demande en permanence sans oser l'avouer. Elle qui a la quarantaine bien tassée, est revenue à Manhattan il y a un an pour s'occuper de sa sœur mourante. Pas Manhattan New York, ce serait trop sexy. Manhattan dans le Kansas, trop paumé avec champ de maïs à perte de vue, dans lequel Sam s'est toujours senti marginal. C'est justement grâce à d'autres marginaux comme elle, une chorale queer, un vieux copain de lycée, Joël, que Sam va faire tomber tout doucement ces murs intérieurs qui l'empêchent d'avancer.
We deserve to be happy. I'm not sure.
Affronter sa famille qui feint d'ignorer, par exemple, l'alcoolisme de sa mère.
You need to talk to her about going to rehab, Dad.
Rehab. What are we, movie stars?
Tout cela pourrait être sinistre s'il n'y avait la présence incroyable de Bridget Everett, artiste de stand-up et de cabaret, sorte de Marianne James version US bourrée d'humour, qui illumine cette comédie grinçante sur la difficulté d'être soi et dont le rythme lent pourrait déstabiliser certains. Mais voir Sam oser donner de la voix, elle qui pense n'être bonne à rien, offre de purs moments d'émotion. Pour une série dont on espère vite une deuxième saison.
Somebody Somewhere, c'est à voir à partir d'aujourd'hui sur OCS. Dans un instant, la météo.
France Inter présente la collection culte de livres On va déguster, qui rassemble déjà plus de 500 000 lecteurs. Retrouvez les trois best-sellers de la gastronomie, concoctés par François-Régis Gaudry et ses amis.
Comment préparer la frite parfaite? L'origine de la poule Henri IV, de la soupe VGE, du beurre Colbert. Quels étaient les plats préférés de Fellini, Rossini, Verdi?
On va déguster de joyeuses encyclopédies qui ouvrent l'appétit.
Pour suivre son traitement,
gardez ses repères chez Capital.
Les originals du laboratoire Organon, c'est 22 médicaments.
Au prix de leur générique, l'idéal.
Parlez-en à votre médecin ou allez sur organon.fr.
Écoutez les infos.
Savoir le vrai du faux.
Se faire une opinion.
Et entrer dans l'action.
Avec l'appli Radio France et la plateforme radiofrance.fr, retrouvez toute l'information en accès libre.
En direct ou en podcast.
Radio France.
Entrée libre.
Il est 13h29.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est souvent gris, c'est ensoleillé sur le sud-est cet après-midi.
Oui, même du sud de l'Aquitaine vers la Dordogne, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur, les Alpes, le Jura. En effet, du soleil avec du vent en Méditerranée jusqu'à 70 à 90 km/h pour le Mistral. En remontant vers le nord, là, les nuages gardent l'avantage. La grisaille a du mal à se morceler. On trouve tout de même de belles éclaircies de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Elles peuvent temporairement concerner la région parisienne. Côté thermomètre, ça monte un petit peu au nord, 4 degrés à Nancy, à Bourges, à Lyon ou à Agen. 7 degrés à Lille, Paris, Nantes et Limoges, 8 à Dieppe, à Vannes, 14 degrés pour Perpignan et 16 à Toulon. Et puis demain, le ciel sera encore bien gris au nord et sur le sud-ouest. Ça s'éclaircira tout de même du nord de la Seine au nord-est l'après-midi. Et puis des Pyrénées vers la Méditerranée, le Massif central, les Alpes et le Jura, vous aurez du soleil, Bruno.
Merci Élodie Calac, Météo France. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Sauf miracle, il n'y aura pas d'union de la gauche avant le premier tour de la présidentielle. Alors maintenant, comment convaincre? C'est l'enjeu des semaines à venir désormais. On suivra quand même la primaire populaire à la fin du mois. Elle revendique 250 000 inscrits pour l'instant, plus qu'aux primaires écologistes ou chez les LR. Et sur le fond, quelle proposition pour séduire les électeurs de gauche ou d'ailleurs? Voyons donc aujourd'hui du côté des écologistes. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour dialoguer avec notre invitée Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, conseillère régionale des Hauts-de-France, conseillère municipale à Hénin-Beaumont, la ville tenue par le Rassemblement National, ce RN qui, si l'on en croit les sondages, a beaucoup plus de chances aujourd'hui d'avoir sa candidate au second tour que les écologistes. Bonjour Marine Tondelier.
Bonjour.
Je disais séduire les électeurs de gauche ou de droite. Est-ce que c'est toujours d'actualité avoir un discours écologiste qui puisse toucher aussi bien à gauche qu'à droite?
Bah, avoir un discours écologiste et puis on verra qui est convaincu. Mais je pense sincèrement que dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, le fait notamment que les enfants qui naissent aujourd'hui auront 30 ans en 2050 et qu'on ne sait pas si la planète sera vivable pour eux, je pense que ça peut toucher effectivement beaucoup d'électeurs, pour peu qu'on arrive à parler d'écologie dans le débat présidentiel, ce qui n'est pas gagné à l'heure actuelle.
Alors allons-y, question d'Elisa, on ne peut pas l'avoir en direct, mais je vais reprendre sa question dans ma voix. Comment Yannick Jadot compte-t-il sortir du nucléaire? La Belgique va en sortir et vise 100% renouvelable dès 2025. Le Kazakhstan construit le plus grand parc hydrogène vert du monde. Je ne suis pas sûr que le Kazakhstan soit un modèle. Est-ce que les, Marine Tondelier, les derniers événements, le nouveau retard à Flamanville, le parc nucléaire qui patouille, disons-le comme ça, est-ce que ça vous incite à accélérer la sortie du nucléaire?
Bah, il est vrai qu'on dit souvent qu'il faut être sérieux en matière énergétique, etc. Alors soyons-le et regardons le bilan des précédents gouvernements. Aujourd'hui, dans le dogme nucléaire français, on a 13 centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, enfin 13 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt pour maintenance, et les 4 les plus récents et donc les plus puissants sont eux coupés pour un problème de fissure sur des circuits de sécurité. Et donc on voit bien que de fait, le parc nucléaire ne fonctionne pas à plein. On a ce fiasco de Flamanville qui a causé
quasiment 20%.
Quasiment 20%. On a le fiasco de Flamanville qui devait coûter 3 milliards d'euros, ouvrir en 2012. Nous sommes en 2022. On nous annonce de nouveaux retards. On en est quasiment à 20 milliards. Et donc la réponse que trouve Emmanuel Macron là-dessus, c'est de nous dire on va en construire 6 autres.
Alors ce que disait Yannick Jadot jusque-là, c'était sortir du nucléaire dans un délai raisonnable. Est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on va plus vite? Et quel délai? C'est quoi un délai raisonnable?
Alors son programme sortira le 29 janvier. Donc vous aurez tous les détails à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 22 décembre dernier, la France a importé 100 milliards d'euros d'électricité. Donc on voit bien que dans le système actuel pour lequel les écologistes ne sont pour rien, on n'était pas au pouvoir, d'ores et déjà on a un problème d'indépendance énergétique et même d'approvisionnement énergétique.
Mais donc
ce prix de l'électricité qui flambe.
Vous nous en dites pas plus sur la date, vous nous renvoyez au 29 janvier.
Je laisse la primeur à mon candidat de l'annoncer, mais évidemment que les écologistes seront en pointe sur ce sujet pour sortir au plus vite du nucléaire, mais sans vous raconter n'importe quoi, en ayant des délais raisonnable et tenable. Parce que nous, quand on fait des promesses, on les tient.
Renvoyé au 29 janvier, ça amène une question de ma part et qui rejoint un peu celle d'Éric Duvard. Comment relancer la campagne? J'avais la semaine dernière à votre place un représentant du Rassemblement National à qui je disais que sur le site officiel de Marine Le Pen, pour l'instant, il y a 3 sujets développés. Honnêtement, sur le site officiel de Yannick Jadot, c'est un peu pareil. Il y a 3 sujets développés. La légalisation du cannabis, la défense de la liberté de la presse et puis un troisième. Pourquoi il faut si longtemps avant d'avoir un programme? On est à 80 jours du premier tour, Marine Tondelier.
Parce que on a fait, comme vous en parlez tout à l'heure, l'Union des écologistes. On a fait une primaire des écologistes. Aujourd'hui, Yannick Jadot est soutenu par le périmètre de 3 listes aux européennes dernières, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, Génération S, Génération Écologie. Et donc, écrire un programme ensemble, ça prend du temps, surtout que on veut y ajouter une dimension citoyenne et donc on concerte vraiment avec la société civile. Ça ne veut pas dire qu'avant la sortie du projet de 29, on n'a aucune idée. Mais vous voyez, la concertation, c'est important et c'est d'ailleurs comme ça qu'on voudra gouverner.
Allez, nous allons au standard. Question au standard. Est-ce qu'on peut me dire qui dans le casque est au standard? Muriel. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Bonjour monsieur, bonjour madame Tondelier. Moi j'aurais une réflexion que je ne suis pas la seule à avoir. Je suis ce qu'on peut appeler une écologiste dans mes convictions et j'essaye dans mon mode de vie. J'ai déjà voté pour Yannick Jadot aux élections régionales, mais je suis aussi depuis toujours une femme de gauche et je suis extrêmement déçue, voire désespérée, de voir que les écologistes et la gauche vont en ordre dispersé à l'élection présidentielle. Ils ont les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, ils refusent de se parler.
Alors,
j'aimerais demander à M. Jadot, comme à M. Mélenchon, d'arrêter de privilégier les logiques d'appareil pour prendre en compte l'intérêt du pays et d'accepter enfin de se parler, se regrouper, de participer à la primaire populaire pour présenter une candidature unique.
Alors Marine Tondelier, on a beau vouloir parler du fond, des propositions de chacun, vraiment au standard, à chaque fois ça revient, quelle réponse?
Bah écoutez, moi je suis adepte de séries télé politiques, mais on a l'impression des fois que dans l'élection actuelle, la réalité dépasse la fiction et qu'on est arrivé dans un moment un peu particulier où on nous parle de cette primaire populaire qui en réalité n'est pas une primaire puisqu'il n'y a pas de débat de fond. D'ailleurs, le socle programmatique et celui de la primaire populaire ne respecte même pas les accords de Paris en termes d'objectifs pour stabiliser le changement climatique. Et donc tout ça n'est pas sérieux. Ce qui n'est pas sérieux non plus, c'est finalement de passer notre temps à débattre de ça. Nous avons une seule candidature écologiste. La social-démocratie en a 3. Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Arnaud Montebourg, dont on ne sait pas vraiment s'il sera candidat jusqu'au bout ou pas. Et donc nous, notre travail d'unité, nous l'avons fait. Par ailleurs, moi je suis persuadée que l'écologie est l'avenir de la gauche, parce que nous portons finalement toutes les promesses de la gauche historique, ces grosses propositions, ces principaux combats. Nous ne les avons jamais laissés tomber. Quelque part, peut-être que la social-démocratie a laissé tomber ce témoin comme dans une course de relais. Nous l'avons pris et nous le portons. Mais nous y ajoutons, et c'est notre priorité, la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte pour la biodiversité, etc. Et nous sommes les seuls à le faire. Donc nous actualisons en fait aux enjeux du siècle présent les problématiques de la social-démocratie.
Alors je ne sais pas si vous êtes les seuls. Anne Hidalgo a donné son programme détaillé la semaine dernière, à inscrire la lutte pour la biodiversité et contre le changement climatique dans la Constitution. Pas de frais avancés pour la rénovation thermique. Il y a toute une série de propositions liées à l'écologie. C'est un chapitre complet. En quoi la candidature de Yannick Jadot est-elle plus écolo que celle, par exemple, d'Anne Hidalgo?
On va être très clair. Nous, on a vécu ce mandat de 2012. Les écologistes étaient sortis assez rapidement de ce gouvernement. Je faisais partie des gens qui avaient fêté la victoire de François Hollande, place de la Bastille, et on ne m'y reprendra plus. Ce qu'on a vu dans ce mandat précédent, ce qu'on voit dans d'autres endroits, c'est que tant que ce ne sont pas des écologistes au pouvoir, l'écologie, même si dans les paroles tout le monde s'en préoccupe, elle arrive toujours en dernière dans les actes. Et ce mandat est celui de la dernière chance. Donc non, on ne va pas prendre le risque de ne pas avoir de candidat écologiste. Ce serait d'ailleurs complètement anachronique. Dans une période où les jeunes ont marché pour le climat, où il a fait 26 degrés le 31 décembre dans les Pyrénées, c'est ça qui doit nous préoccuper et rien de tel qu'un écologiste pour en parler, mais aussi pour faire une fois élu.
Sur la primaire populaire, les écolos qui sont très en pointe ou très, très vindicatifs pour changer les façons de faire de la politique, est-ce que ce jugement majoritaire vous semble une piste intéressante pour renouveler la façon de voter? C'est-à-dire on attribue des notes et c'est celui qui a la meilleure moyenne qui l'emporte. Est-ce que cette façon de voter pourrait être utilisée dans d'autres élections, d'autres scrutins, d'autres consultations?
Moi, je suis très ouverte à ce qu'on fasse de la politique différemment, à ce qu'on change ses méthodes. Par contre, je suis très attachée à ce qu'on fasse de la politique correctement. Et je pense que ce qui est devenu cette primaire populaire, moi, j'y ai des amis, des gens très convaincus, et je sais pourquoi ils y sont. Mais je trouve que là où ils en sont rendus aujourd'hui, on est quand même dans un moment problématique. Non, c'est pas une primaire. Il n'y aura même pas de débat entre candidats. Il y a des candidats qui vont être candidats sans leur consentement. C'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. questionnaire. Et donc finalement, ça va être quoi cette primaire? Ça va être un sondage grandeur nature, sauf que ça sera pas aussi sérieux qu'un sondage, puisque l'échantillon des gens qui vont être sondés n'est représentatif, mais on ne sait pas de quoi. Donc on arrive vraiment pour moi dans quelque chose de problématique sur cette primaire populaire. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent quand même. Il y a plus de 15 000 donateurs cette primaire, et je pense qu'ils sont un peu trompés en fait dans l'exercice qui est proposé, même si j'entends l'attente sociétale derrière. Yannick Jadot l'a proposé dès le 17 avril de faire une primaire ensemble. Nous l'avons faite vraiment chez les écologistes à moins de 3 mois du scrutin. C'est quand même pas très sérieux d'envisager cela.
Vous dites donner de l'argent pour s'inscrire, faut laisser une empreinte de carte bleue, mais il y a pas de prélèvement.
Mais il y a eu des dons. Oui. Il y a eu 14 000 dons.
Mais juste pour l'inscription.
C'est le chiffre des porte-parole de la primaire populaire.
Pour l'inscription au vote, Joël au standard. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, eh bien, vous venez de dire que vous vouliez faire de la politique différemment et correctement. Alors, allez-vous interdire toutes les actions des lobbies auprès de nos décideurs politiques?
Quelles actions particulières contre les lobbies, Marine Tondelier, avec Yannick Jadot, président de la République?
Bah c'est vrai que c'est un sujet extrêmement préoccupant, et je pense que la confiance rompue entre les Français et les politiques vient beaucoup de là. On voit par exemple la défiance qu'il y a sur la vaccination. La moitié de la population ne se demandait pas quel était l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, quels étaient leurs liens avec la classe politique, on aura un débat beaucoup plus sain sur le sujet. Et notamment, je pense qu'en levant les brevets sur les vaccins, on permettrait un, de mieux protéger la population mondiale, mais notamment la population française, et aussi d'apaiser le débat, parce qu'il y a des gens qui se sont enrichis dans cette crise. Et le rapport d'Oxfam est sorti ce matin. Quand on voit que depuis le début de la pandémie, les 5 plus gros milliardaires de France ont doublé leur fortune, et qu'aujourd'hui, la fortune de ces 5 personnes les plus riches de France équivaut à 40% des revenus, de la fortune, du patrimoine des Français les plus pauvres, c'est quand même compliqué, et ça incite bien peu à se dire que tout ça arrive par hasard et que c'est pas parce que Emmanuel Macron était président que ça se passe comme ça.
Et donc, ouvrir les brevets. Question courte, réponse courte. Est-ce que Yannick Jadot compte remettre l'homéopathie remboursable par la Sécu?
Il vous l'annoncera le 29 janvier. Je ne vais pas parler à sa place, mais évidemment que c'est des sujets qui intéressent beaucoup les écologistes.
Michel au standard. Bonjour Michel, vous nous appelez de Nantes.
Oui, bonjour.
Industrie et énergie, me semble-t-il.
C'est tout à fait ça. Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir comment monsieur Jadot compte-t-il faire, compte-t-il avoir comme politique de réindustrialisation de la France, et avec quelle source d'énergie?
Marine Tondelier.
Alors sur les sources d'énergie, il est évident que les écologistes vont souhaiter rééquilibrer en faveur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on voit que, y compris sur les trajectoires que s'étaient fixées Emmanuel Macron et Barbara Pompili eux-mêmes, c'est-à-dire pas ceux que nous aurions fixés, ils sont très en retard sur le schéma éolien, sur l'implantation de panneaux photovoltaïques. Ça, c'est dramatique. Et puis, on se rend compte également que le tissu industriel français, il est en mauvais état et que... ces industries qui sont en mauvais état, on sera amené demain à du coup importer des choses de l'étranger pour pallier au fait que ces industries, on ne les ait pas sauvées. Donc ça, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif, d'anachronique, parce que évidemment que quand on importe quelque chose, on émet aussi plus de CO2, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. On a besoin de réintroduire un cercle vertueux en matière industrielle, en matière de consommation locale. Et pour l'instant, c'est l'inverse qui est fait.
Est-ce que le gouvernement fait bien de contraindre, pour limiter la hausse du prix de l'électricité, de contraindre EDF à vendre plus d'énergie, plus d'électricité à bon marché sur les marchés, justement?
Alors, si le gouvernement n'avait rien fait, le tarif bleu d'EDF aurait augmenté de plus de 40%.
Alors que là, il ne va augmenter que de 4%.
Évidemment qu'il fallait intervenir en urgence pour éviter ça, et que le chèque énergie de 100 euros n'aurait servi à pas grand-chose. Nous, d'ailleurs, nous souhaiterions que pour les plus modestes, ce chèque énergie soit porté à 400 euros. Donc oui, le gouvernement, il a raison d'intervenir en urgence, mais qu'a-t-il fait pendant ce mandat pour ne pas en arriver là? On est dans une société qui est en état d'ébriété énergétique, qui est complètement dépendante parce qu'on n'investit pas assez dans les transports en commun. Là, je vois à la métropole de Lyon, notamment, les écologistes font en sorte que 10 000 vélos soient fournis aux jeunes de la métropole, parce qu'il faut apprendre.
Ce n'est pas du transport en commun, mais du transport individuel accessoire.
Oui, mais vous voyez, il y a eu très peu d'investissements là-dedans, y compris sur la rénovation thermique des logements. 5,6 millions de ménages français en situation de précarité énergétique. Et donc ces gens-là, on peut évidemment qu'ils sont complètement addicts à l'énergie parce qu'ils ont des chauffages électriques, parce que leurs maisons ne sont pas isolées, parce qu'ils ont besoin de la voiture pour aller travailler, parce que les transports en commun ou le vélo n'est pas possible chez eux. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler.
On s'arrête là-dessus. Est-ce que l'idée d'Anne Hidalgo d'avancer les frais et de se faire rembourser au moment, par exemple, de la vente de la maison, ça c'est une piste que vous pourriez retenir?
Entre autres, mais on voit surtout que c'est un parcours du combattant. Je sais, je suis en train de le faire. Cette rénovation globale, c'est un parcours du combattant aujourd'hui. Et il me paraît normal que beaucoup de gens abandonnent en route parce que rien que pour faire l'audit et pouvoir montrer qu'on a fait suffisamment d'économies d'énergie, ça prend parfois plus de 2 ans d'attente dans certaines régions de France où il y a personne pour faire ces audits énergétiques. Donc il y a un problème de toute la filière qui n'est pas assez encouragée.
Et donc le détail du programme de Yannick Jadot le 29 janvier.
Suspense.
Merci Marine Tondelier d'être venue au micro de France Inter. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
Cuivre à suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Aujourd'hui, il sera question d'une militante du 19e siècle mise à sa juste place dans une biographie.
Flora Tristan, morte en 1844.
Rendez-vous dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton une semaine avec les compagnons du devoir grâce à Sarah Guibaudot. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le réalisateur, militant écologiste et poète Cyril Dion est à votre micro aujourd'hui. Mercredi après-demain, il présente un spectacle Résistance poétique sur la scène du New Morning à Paris avec le guitariste et compositeur Sébastien Hogg.
Compositeur entre autres de la musique du nouveau film de Cyril Dion, Animal, sorti en décembre et toujours en salle, sachant qu'au New Morning, c'est donc de la poésie que Cyril Dion donnera à entendre, il déclamera et slamera, mais oui, des textes issus notamment d'un recueil à paraître chez Actes Sud à l'orée du danger. Des textes qui dixitent la présentation de l'éditeur, chantent les déambulations de l'homme, celles qui le propulsent vers l'état de résistance.
La poésie, c'est quelque chose d'assez jaillissant. On n'essaie pas d'être dans une thématique, mais c'est vrai que si on creuse, on voit bien qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement, notamment la thématique de l'enfermement, de l'aliénation et de la capacité de s'en libérer.
C'est un thème qui vient d'où ?
Ça vient de tout le temps. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là. Quand j'étais à l'école, j'avais l'impression que j'étais enfermé dans un bahut et que toute la société m'emmenait dans une trajectoire un peu comme ça. C'est-à-dire que l'aspiration que je pouvais avoir, la passion, l'élan, c'était pas quelque chose qui était très considéré. Et justement, la poésie, ça a toujours été quelque chose qui est une sorte de petit espace de liberté. Et ça a toujours été quelque chose dont j'ai eu besoin pour mon équilibre.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
De John Lennon qu'a choisi Cyril Dion, Frédéric, Working Class Hero.
Un titre paru sur son premier album solo en 1970. S'il a choisi ce titre, Cyril Dion, c'est d'abord parce que John Lennon est son héros. Et parce que là aussi, les questions d'enfermement et de libération, une dénonciation des idéologies qui manipulent les masses.
Pour moi, c'est une chanson qui parle de l'aliénation. Il dit qu'on est en gros drogué à la télé, à la bouffe. Et qu'on nous conduit finalement dans cette espèce de goulot dans lequel on va être obligé de se conformer à la société. Et lui qui vient de la classe populaire et qui a réussi à tout faire éclater parce que il a eu ce succès extraordinaire, parce qu'il est devenu un Beatles, parce qu'il est devenu plus connu que Jésus-Christ, comme il le disait à un moment. Le fait qu'il soit repassé par cette case-là pour re-raconter tout ça dans cette chanson, enfin moi ça me bouleverse.
Et donc la société de consommation qui est une forme d'aliénation.
La société de consommation, et puis ça vient de plus loin malgré tout. Avant, on était aliéné par la communauté dans laquelle on vivait, par la religion. Mais ce que dit cette chanson, c'est que finalement, on peut essayer de tracer une ligne qui nous libère de tout ça, qui nous libère de la religion, qui nous libère de la pub, qui nous libère de la consommation, de tout ce qui cherche à nous conformer et à nous aliéner.
Elle vous a apporté quoi ? Cette chanson-là.
La première fois que j'ai entendu cette chanson, et encore très récemment, elle m'a surtout donné le sentiment d'être moins seul, c'est-à-dire d'avoir l'impression que d'autres gens traversaient les mêmes états que moi.
There's room at the top, they are telling you still. But First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be.
Qu'est-ce qu'il y a de John Lennon en vous?
Je pense qu'il y a plein de choses de John Lennon en moi. Enfin, justement, cette aspiration à être libre, à la fois ce besoin de créer, à la fois cette immaturité parfois, à la fois ce côté engagé et la tentative finalement de relier la création et l'engagement.
Oui, c'est votre portrait en fait.
En tout cas, ça fait partie des gens qui m'ont beaucoup inspiré, donc peut-être que c'est pas totalement un hasard.
Working Class Hero, John Lennon, c'était donc Frédéric, le choix de Cyril Dion.
Réalisateur, poète, désormais slammer, qui donnera mercredi son spectacle Résistance Poétique à 21h au New Morning à Paris.
Merci Frédéric Pommier. Avant de passer au feuilleton, cette dernière minute, Éric Zemmour, condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 10 000 euros d'amende pour ses propos sur les mineurs isolés, voleurs, assassins et violeurs. C'était sur CNews, 10 000 euros d'amende donc pour le candidat à la présidentielle, 13h50. Dans le feuilleton, nous passons la semaine dans la maison des Compagnons du Devoir de Pantin, près de Paris, à l'heure où beaucoup d'artisans déplorent le manque de main-d'œuvre. Quel cadre pour la formation des jeunes? C'est un des sujets qu'on espère voir débattu lors de la campagne. Et dans le feuilleton, grâce à Sarah Guibaudot, nous passons donc la semaine auprès des Compagnons du Devoir. Ils revendiquent l'héritage des ouvriers artisans du Moyen-Âge. L'association accueille 11 000 jeunes en tout en apprentissage. 3 000 font leur tour de France, 50 ville en ville, dans différentes entreprises pour parfaire leur formation. Premier épisode dans cette maison de Pantin près de Paris. La vie en communauté, clé du parcours. Les apprentis peuvent être hébergés dans des maisons comme celle-ci qu'a visité Sarah. Elle est dirigée par un prévôt. Et deux premiers constats en pleine crise sanitaire. Chez les Compagnons, le mot « organisation » est central et on travaille beaucoup.
Bonjour, je cherche le prévôt. Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Je finis deux, trois formalités pour l'organisation de la vaccination aujourd'hui.
Donc qu'est-ce qui se passe là? Vous avez organisé un centre de vaccination aujourd'hui?
Effectivement, donc certains jeunes m'avaient fait remonter l'information comme quoi ils avaient des difficultés à trouver des créneaux pour aller se faire vacciner. J'ai appelé la Croix-Rouge. Donc aujourd'hui vous avez un centre de vaccination, on va dire compagnonnique.
De ce côté-là ou ici?
J'ai piqué à ce niveau-là. Ça fait pas mal.
Oui, voilà. Problème de haute solitude.
Si vous voulez mettre des chaises par là.
Pour les salles, c'est le premier jus qui s'en occupe de faire des affiches.
Ça marche. Alors, premier jus chez nous, en fait, c'est les premiers aspirants. C'est-à-dire que dans la structure d'une maison de compagnons, vous avez un prévôt qui est le directeur du site. Il est épaulé dans sa mission par un roller. Et ce roller-là est épaulé par deux premiers aspirants. Donc c'est des jeunes qui sont sur leur tour de France et qui doivent superviser l'ensemble des jeunes qui ont une tâche à accomplir. C'est-à-dire que chez nous, on commence par des petites responsabilités. On peut commencer à avoir comme mission fermer un portail, fermer une porte, éteindre des lumières, sortir les poubelles, ranger les poubelles. Après, on monte un peu en gamme. Faut organiser des sorties pour que les jeunes, le dimanche, puissent aller visiter des musées ou faire d'autres activités. Alors là, sur cette maison-là, il y a 90 personnes à taux fixe, 140 la semaine. Bon, ça fait un petit peu de boulot.
Quels sont les métiers qui sont enseignés ici?
Alors, sur la maison de Pantin, vous avez les maroquiniers, les selliers, les tapissiers et les cordonniers bottiers, les serruriers métalliers et le métier de plombier. Après, en hébergement, on accueille tous les métiers. Sur la maison, je vais avoir des menuisiers, des boulangers-pâtissiers, des chaudronniers, pratiquement l'ensemble des 30 métiers du compagnonnage. Donc là, on a vu déjà le hall d'entrée. Après, on va aller faire un tour dans les salles de cours.
Là, on est donc dans l'atelier. Donc, c'est une très grande pièce avec de grands établis en bois et des petits groupes de jeunes qui travaillent. avec des tissus, du cuir, des aiguilles qui sont en train de prendre des mesures, de tailler, de coudre. Il y a peut-être une bonne cinquantaine de personnes qui travaillent là, un samedi matin. Les jeunes qui sont en apprentissage travaillent en entreprise la journée. Et puis ici, à la Maison des Compagnons, tous les soirs jusqu'à 22h, plus le samedi.
C'est une formation qui est intense. Effectivement, ils sont en cours ce samedi. Et puis, on voit qu'ils sont tous assidus, que ça se passe très bien et qu'ils se penchent tous sur leurs pièces. Après, forcément, ils ont aussi des petits moments de détente parce que c'est une formation qui est intense et il faut savoir aussi décompresser. Ils ont une soirée de libre par semaine qui leur permet d'aller se décompresser soit au sport, soit en réalisant des sorties sur Paris. Mais ça reste un rythme costaud.
Et la suite du feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand, ce sera demain, feuilleton de Sarah Guibaudeau.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Aujourd'hui, une grande figure féminine, Flora Tristan, qui aimait beaucoup les compagnons du devoir, n'est-ce pas ? Un peu négligée, Flora Tristan, après sa mort, redécouverte depuis 50 ans. Brigitte Krulik, l'historienne, lui consacre une solide biographie.
Enfin, je ne veux pas me vanter, mais quand j'étais professeur, enfin, il est vrai que c'était dans la plus haute antiquité, je veux dire après mai 68, je faisais toujours un cours sur Flora Tristan, personnage d'exception. Jeune orpheline d'un aristocrate péruvien, le chevalier Tristan de Moscoso, installée à Paris, amie de Bolivar, mort trop tôt, sans avoir assez régularisé son mariage religieux avec la mère de Flora, laquelle s'en alla chercher sa part d'héritage au Pérou, obtint au moins une somme, qui lui permit ensuite de vivre frugalement dans un petit appartement de la rue du Bac, où elle rédigea des livres incisifs au croisement de l'autobiographie et de l'observation sociale. Pérégrination d'une paria, promenade dans Londres. Elle raconte comment, l'accès de Westminster étant interdit aux femmes, elle se déguisa en mamamouchi turque pour y pénétrer. D'ailleurs, elle n'apprécia guère le système parlementaire anglais car, disait-elle, le peuple qui fait la fortune des îles britanniques y est traité en exclu. Elle en appelait plutôt à une autre méthode qui s'expérimenterait dans l'association ouvrière, la classe ouvrière, et potentiellement l'acteur numéro un, disait-elle, de la transformation sociale à venir.
Oui, mais bon, monsieur le professeur, sauf votre respect, vos cours laissaient dans l'obscurité pas mal d'angles morts qu'explore la biographie de Brigitte Krulik.
Bon, je ne veux pas battre ma coupe, c'est vrai, je ne donnais pas assez de place au combat féminin de Flora. J'avais presque oublié le nom de son mari, Chazal. Pourtant, que de rebondissements dans leur malheureuse histoire. Chazal était un artisan laborieux qui n'a pas supporté longtemps l'indépendance et l'exaltation de Flora. Alors après qu'ils se séparèrent, il fit tout pour s'assurer le monopole de la garde de leurs deux enfants. Jusqu'à ce jour de 1838 où il se porta à la rencontre de Flora dans la rue, les deux poings dans les poches, et tira sur elle. Verdict, 20 ans de prison et Aline revint à sa mère. Alors, Flora va défendre le droit au divorce, mais pas seulement, elle soutiendra que l'émancipation de la femme doit être placée au cœur de la question sociale. Pour elle, l'injustice envers les femmes précède les autres.
Bon, hommes et femmes, il faut que le nombre se réunisse pour former un tout, une unité, c'est le projet de son union ouvrière ?
La brochure qui la présente, 1843-1844, se serait vendue à 24 000 exemplaires, ce qui est considérable pour l'époque. En avril 1844, elle décide d'aller chercher ceux qui pourraient souscrire à l'Union ouvrière jusque dans une vingtaine de villes de France. Elle tient réunion dans tous les cercles ouvriers, socialistes et compagnoniques susceptibles d'entendre sa parole qu'on dit douce et facile. Elle place sa brochure chez les libraires et dans le journal qu'elle tient de son voyage, elle note toutes les observations qu'elle peut faire dans les ateliers, les galetas où elle pénètre à l'improviste. C'est pas facile de voyager à cette époque, entre Lyon et Saint-Étienne par exemple. Le wagon du premier chemin de fer est d'abord tiré par des chevaux jusqu'à une colline, d'où il est lâché à toute vitesse. Et pour rejoindre depuis Lyon Avignon, 12 heures suffisent à peine en vapeur sur le Rhône. Flora Tristan prend soin, dès son arrivée, de rendre visite aux autorités civiles, militaires et religieuses. Elle les rassure en disant qu'elle ne fait pas campagne pour l'élargissement du droit de vote qui inquiète tant le gouvernement de Louis-Philippe. c'est, dit-elle, le combat des bourgeois libéraux. Elle, elle place l'obtention des droits sociaux avant celle des droits politiques. Son succès est variable, moindre évidemment que celui de Liszt, qui fait une tournée aux mêmes endroits. À Bordeaux, le 24 septembre 1844, elle assiste au concert du compositeur au Grand Théâtre. Une congestion cérébrale la saisit le lendemain. Elle meurt le 14 novembre. Elle donne son corps à la science et sa tête à la Société de Phrénologie, qui étudie alors les crânes avec frénésie. Aline, sa fille, revient d'Amsterdam où elle est modiste. Peu de temps après, elle va épouser un journaliste libéral qui s'appelle Clovis Gauguin. Aline et lui auront un fils, Paul Gauguin.
Brigitte Krulik, Flora Tristan, biographie publiée chez Gallimard. Merci Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme de la Terre au carré, Mathieu?
Eh bien, on va parler du trio infernal des entreprises climaticides.
À tout de suite.
Au terme de Saint-Amand, entre Lille et Valenciennes, nous prenons soin de vos articulations, de votre dos, de vos poumons, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Le bonheur, me baigner dans ma piscine quand il fait froid dehors. Les enfants, allez, on fait coucou aux voisins dans leur doudoune. Avec notre abri de piscine Abri Sud, la température est toujours optimale. Voilà, c'est ça mon bonheur Abri Sud.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Vous l'entendez, le son du bonheur qui nous rappelle l'été? Avec Club Marmara, partez le retrouver. Profitez de l'offre Primo, jusqu'à moins 300 euros sur vos vacances, avec la possibilité de modifier sans frais jusqu'à un mois du départ. Club Marmara, le bonheur sera toujours là. Jusqu'au 31 janvier sur tui.fr et en agence de voyage. Conditions sur tui.fr.
Il y a tellement d'imprévus quand on est à son compte. Je suis architecte, je me déplace beaucoup, et si je suis immobilisé, c'est la cata. Mais ça, chez Aesio, ils s'en occupent avec leur offre Aesio Santé Pro, créée avec des travailleurs indépendants.
Suivre une autre voie, celle du partage, c'est d'abord penser aux autres et en faire plus pour eux. Comme avec l'offre Aesio Santé Pro, qui met à disposition des travailleurs indépendants une assistance transport en cas d'immobilisation. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux.
Voir conditions et informations sur aesio.fr.
Il est 14h.